Et voilà, les CRS passent à l'attaque. Et voilà, on se fait sortir. Manu Militari. Vive la démocratie française, républicaine.
Monsieur le Premier ministre, vous au moins, vous avez le courage de faire cette réforme, malgré les protestations évidentes qui allaient inonder nos rues. Cette réforme, je crois qu'elle est indispensable. Franchement, je comprends qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui préfèrent embaucher et fabriquer à l'étranger. Les travailleurs là-bas ont le sens des réalités, je pense. Ils savent que pour conserver leur emploi, il faut sans doute savoir travailler plus plutôt que de bloquer l'économie. Et je pense qu'il fallait quand même pas espérer des cadeaux ou des bonnes surprises. N'oublions pas que le but de M. Raffarin, c'est de sauver le principe français de nos retraites. En avoir des retraites. Peut-être un peu moins, mais en avoir quand même. Alors bon courage, Monsieur le Premier ministre, et tenez bon. J'encourage d'autres éditeurs qui ont un avis différent ou partagé sur la chose. En tout cas différent de celui qu'on entend quasiment tous les jours dans cette émission, à se faire connaître. Je crois que je me sentirais un peu moins seul. Bruno de Laval.
Salut Daniel, salut à tous. Un petit message de Marseille, ça fait maintenant une heure que les gens défilent rue de Rome. Ça s'arrête pas, il y a un monde fou. On voit tous les collèges, toutes les écoles, tous les lycées, ils ont tous fait des pancartes. On a la CGT qui est venue nous faire la musique. On a la coordination qui met l'ambiance. C'est magnifique. On est dans la rue encore aujourd'hui et je crois qu'on y sera encore pour un bon moment. Alors à tous, la lutte continue et lâchez pas le morceau.
Message de la France d'en bas à la France d'en haut. Ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui essuie la morve de tes gamins, qui s'efforce de leur apprendre à lire, à écrire et à compter. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman qui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare ou installe ses câbles et ses tuyaux, qui font que tu peux prendre un bon bain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain frais, un café et un journal. La rue qui ramasse tes poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, répond au téléphone, approvisionne les rayons, tape tes discours, taille la haie, photocopie, balaye, ausculte, assemble, épluche, emballe, graisse, fax, repasse, arrose. C'est la rue qui paye ton salaire de ministre, augmentation de 70% comprise, la rue qui cotisera pour ta retraite de ministre, et des fois, la rue, j'y suis bien, et je t'emmerde.
Salut Daniel, c'est Marc Esperanza dans l'Aude. Et si on parlait de l'AGCS, l'accord général sur le commerce des services. L'AGCS a accéléré le processus de la libéralisation, dite réforme. Elle le rendra irréversible. Elle réduit ou élimine les pouvoirs des États. Tout cela se passe derrière des portes closes. Les citoyens et certains parlementaires n'ont aucun droit de connaître ce qui se passe. Comme l'année 2003, c'est une année décisive, nous avons encore une petite chance de s'en sortir. En s'informant, en se mobilisant. Moi, en tant qu'anglais, j'ai battu contre les réformes de Thatcher, la GAP, l'AMI. Nous avons perdu que parce que nous avons été divisés sous tous les syndicats. Aujourd'hui, c'est plus Thatcher, la GAP et l'AMI, c'est Raffarin, l'OMC, l'AGCS. Même combat. Le monde n'est pas une marchandise, moi non plus. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site de Oxfam Solidaire ou URFIG. Allez, je vous embrasse.
Eh ben nous, on vous embrasse aussi, et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui, la GCS. Qu'est-ce que c'est que la GCS? Cet accord général sur le commerce des services, et bien comme cet auditeur britannique vient de nous le dire, c'est un accord qui, pour certains, dont par exemple cette ONG, Oxfam, mais aussi pour ATTAC et pour beaucoup d'observateurs et de gens qui sont impliqués, dont un certain nombre de municipalités d'élus et de municipalités aujourd'hui qui se déclarent hors AGCS, eh bien, c'est la marchandisation du monde. Mais alors vraiment, littéralement, c'est plus un slogan, c'est plus une métaphore, c'est une réalité. Et évidemment que de l'autre côté, l'OMC et l'AGCS disent, mais pas du tout, fantasme, archaïsme, manque de communication, manque d'explication, c'est pas ça du tout, c'est simplement une adaptation, une façon de mettre les choses en ordre, et puis puis de moderniser et puis de réformer tout un vocabulaire que nous connaissons. Alors aujourd'hui, on va essayer simplement, modestement, de comprendre ce que c'est que cet AGCS et voir les difficultés qu'il y a à faire comprendre aussi ce que c'est. Mais auparavant, d'autres messages, il y en a énormément, c'est plus quoi faire avec tous ces messages qui nous arrivent de tous les côtés. Voilà, en tous les cas, quelques-uns. Je vous rappelle le numéro, évidemment, du répondeur de là-bas, si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour Daniel, c'est Fabrice, 29 ans, de Savoie. Je suis professeur et puis accessoirement élu local d'un parti de gauche dont je suis pas forcément très fier qu'il ait pas fait le maximum pour les retraites. Je voulais te soumettre, ainsi qu'à nos auditeurs, deux points concernant cette réforme des retraites. Premier point, Raffarin et Chirac nous font croire que leur réforme est la seule possible. Or, ils ont en 2002 et 2003 baissé l'impôt sur le revenu de 6%. 6% de l'impôt sur le revenu, si nous les avions gardés et versés chaque année au fonds de réserve pour les retraites, en 35 ans, c'est-à-dire d'ici au moment où le cap démographique sera à passer, ça fait 130 milliards d'euros, soit exactement la somme nécessaire pour que le cap soit passé par tous les systèmes de retraite sans autre paramètre à modifier. Ça, c'est à méditer parce que ça prouve que c'est un vrai choix politique. Deuxième point, je voudrais quand même pousser un petit coup de gueule contre ceux qui, dès les premières manifs, vomissent sur les fonctionnaires et les profs en particulier. Il faudrait que ces gens sachent que si nous on a la chance, nous, de pouvoir exercer notre droit de grève, c'est aussi pour eux, ça peut leur servir. Et puis j'aimerais aussi qu'ils soient eux tous syndiqués pour essayer au maximum d'utiliser le leur de droit de grève. Et puis j'aimerais aussi signaler que si on se bat pas sur cette réforme-là, eh bien la qualité de vie va pour la première fois dans ce pays considérablement régresser. Et puis il y aura aussi 1 million de chômeurs de plus, parce qu'au bout de la réforme, si les gens travaillent plus ou qu'on les force à garder des postes qu'ils allaient libérer pour des plus jeunes, eh bien ça pourra plus se faire. Voilà, bye bye.
Effectivement, là-bas, si j'y suis, c'est un beau titre. Pour moi, il est 8h du soir. Je rentre de mon boulot. Il est 8h, c'est vrai, effectivement. Je suis parti depuis ce matin 7h. Ça fait des journées quand même de 10-11 heures. Alors, moi, je fais partie des gens qui débrouillent, on va dire, la catégorie commerciaux, dirigeants de petites PME, etc., qui se défendent toute la journée. Au résultat, bien entendu, quand j'entends le petit bruit dans la musique d'intro, là où on entend une Harley, effectivement, ça nous fait rêver, mais nous aussi, on peut peut-être quelque part y arriver à se payer ça, parce qu'on en bosse pour. Il est 8h du soir, bon sang, et on rentre du taf, comme vous dites si bien. L'autre partie de France qu'on entend assez souvent, cette France, entre parenthèses, socialisante, les héritiers des Aubry et compagnie, tous ces gens-là qui se sont laissés endormir et qui rêvent debout aujourd'hui. On leur a fait croire qu'on pouvait bosser 35 heures, avoir des TRTT, des ponts à répétition, qu'on pouvait faire grève quand on voulait, et que malgré tout, on allait gagner plein de pognon, et qu'on allait en profiter. Messieurs, dames, je regrette, on vous a abusé, vous vous êtes laissé rouler dans la farine. Alors si vous voulez quelque part en profiter vraiment, et puis avoir une meilleure vie, ben faites comme nous, faites partie de cette France-là, cette petite France. Alors je sais pas si c'est la France d'en bas ou la France d'en haut, moi je dirais à cette heure-ci, à 8h du soir, c'est la France de quoi? C'est la France qui bosse, tout simplement. Voilà, merci Daniel Mernet, c'est Hervé, à Cormontreuil, dans la Marne, et puis je salue bien les auditeurs, certains s'y reconnaîtront sûrement. Voilà, au revoir.
Oui, bonjour Frédéric de Paris. Juste pour rappeler, Pierre Bourdieu avait dit, je pense que la période 89-2020 représentera un tournant historique au cours duquel, s'il n'y a pas de résistance, on détruira 2 à 3 siècles de progrès social, intellectuel et culturel. Alors n'oublions pas ces mots, s'il n'y a pas de résistance.
Oui, bonjour Daniel. Écoute, je suis un fervent auditeur de tes émissions, mais là ça commence à devenir trop. Je suis artisan depuis 23 ans, j'ai encore moi-même près de 22 ans à travailler. Nous ne disons rien, nos retraites sont bien moindres que celles de tous ces fonctionnaires. Nous n'avons pas les œuvres sociales, nous n'avons pas les colonies pour les enfants. Il serait bon un jour de tout remettre à plat, parce que quand on parle de salaire, parle-t-on de revenus, parle-t-on de tous ces avantages qu'ont ces gens des grandes entreprises? Je dirais que c'est toujours les mêmes qui finalement descendent dans les rues. Ce coup-ci, il y en a marre. Et puis, bon, ta propagande pour les manifs, ça suffit, Daniel. Il y a maintenant plusieurs années que j'écoute ton émission. Ce coup-ci, il y en a marre.
C'est Jérôme à Saint-Étienne. Bon, moi je suis un sale patron, un sale artisan, un égoïste. Et je voulais vous dire que, moi j'étais à la manif pour les retraites. J'avais rien à y foutre, logiquement. Mais voilà, on n'était pas nombreux, les artisans et les travailleurs indépendants, à aller manifester pour la retraite de nos futurs clients, et de leurs enfants, et de nos enfants, et de nos parents. Alors c'est sûr que la retraite par répartition, c'est une affaire d'altruisme. Si on pense toujours qu'à notre petit nombril, on se retrouvera tout seul. Et tout seul, on fait pas grand-chose. Voilà. Allez, bon courage à tous.
Allons enfants de l'école publique, le jour de grève est arrivé. Pour défendre la République, tous les enseignants sont levés. Tous les enseignants sont levés. Entendez-vous dans vos collèges mugir tous ces réformateurs qui viennent jusque dans nos têtes retirer les assistantes sociales. Aux armes, enseignants, formez vos bataillons. Marchons, marchons, car tous ensemble, c'est sûr, nous gagnerons. C'était Nathalie Vivet du collège Gabriel Avez de Creil.
Agrippé au porte-monnaie, il voulait tout privatiser, l'éducation et la santé, et bientôt le monde entier. Mais ils avaient oublié, nous ne sommes pas des objets. On va se révolter, empêcher de marchandiser. George Bush, clandestino. Jacques Chirac, clandestino. Tony Blair, clandestino. OMC, illégal.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Guy Vanctil. Là-bas, si j'y suis, A, G, C, S.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Vous nous avez fait une belle émission sur l'accord multilatéral sur l'investissement et on a repoussé cet ami qui ne nous voulait pas de bien par la porte. Mais il revient avec un faux nez, avec une fausse barbe, et il s'appelle AGCS. Vous ne pourriez pas nous faire une émission aussi sur l'accord, sur le commerce des services? Ça nous permettrait, en tant que citoyens, de nous occuper de nos affaires. Merci.
AGCS, qu'est-ce que ça vous dit?
Oh. Dominique et moi, je sais pas, on en a discuté souvent, mais...
Est-ce que vous connaissez l'OMC?
SNCF, on sait ce que c'est, mais OMC, on a du mal. Hein.
Et AGCS, ça vous dit quelque chose?
Il nous pose des cols, là.
Mais c'est quoi donc l'AGCS? C'est un truc génial. C'est l'accord général sur le commerce des services qui va permettre de moderniser et de rendre plus efficaces nos services publics en les confiant aux entreprises privées.
Ben, ça me disait rien, non, ça, rien du tout, c'est nouveau pour moi ça. Moi je découvre complètement.
AGCS, vous avez vu, on bute un accord, machin, sur les trucs, sur... On sait qu'il y a service, on sait, voilà. AGCS, c'est accord général sur le commerce des services. Vous avez été nombreux ces temps-ci, et notamment depuis ces mouvements et ces événements, ces grèves, etc., dans l'enseignement et partout, à évoquer l'AGCS, à dire, mais pourquoi vous parlez pas de l'AGCS? Alors, aujourd'hui, eh bien... On en parle. Qu'est-ce que c'est que cette AGCS? Quel rapport avec ce qui se passe, nos vies, nos problèmes, nos soucis? Eh ben, toute la question est là, c'est de trouver le rapport. Et tout est fait pour que justement on bute sur les mots, que ce soit compliqué, que ce soit lointain, que ce soit abstrait, que ce soit virtuel, et très coriace, et pour que nous, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, raison de plus, évidemment, pour essayer de piger. La GCS, c'est à la fois très compliqué, très très compliqué, donc côté technocratique, machin, petit renvoi, petit article, petit application dans tel pays, restrictions, etc. Mais en fait, dans les buts, eh bien, c'est extrêmement simple. C'est l'idéologie ultra-libérale qui s'applique à notre planète tout entière. Comment peut-on résumer l'idéologie néolibérale ? Maintenant, on peut le dire, on le sait. Il s'agit de mettre le commerce, et disons l'économie financiarisée, au-dessus de tout. C'est une valeur qui se situe au-dessus de tout le reste, au-dessus de l'écologie, au-dessus de la santé, au-dessus du culturel, de la culture, et aussi au-dessus du politique, de la politique et des hommes politiques, et que nous sommes tous, et des femmes politiques que nous sommes tous. Alors voilà. Et cette AGCS est un enjeu considérable dans l'avenir proche. Étape par étape, pratiquement toutes les activités doivent se soumettre à l'AGCS. Peu à peu, les services publics, ce qu'on appelle les services publics, eh bien, vont se soumettre à ces accords généralisés sur le commerce des services, et la vie politique va se réduire aux seules fonctions régaliennes de l'État, c'est-à-dire la police, c'est-à-dire la justice, c'est-à-dire la défense, la diplomatie. Vous avez vu que à la rentrée dernière, le thème de la sécurité a été renforcé. Ça, c'est un domaine important que le politique prend très au sérieux. La justice à travers son aspect pénal, et puis la défense qui a vu son budget augmenter. Tous ces secteurs-là, ça appartiendra, ce sera la responsabilité de l'État, mais tout le reste passera peu à peu sous ce système de la mondialisation néolibérale. Voilà, c'est cet enjeu, c'est cette chose qui est en marche et dont les effets, eh bien, sont perceptibles, sont sentis, sont pressentis dans les événements actuels concernant aussi bien les retraites, la sécurité sociale et l'enseignement. Voilà ce qui se prépare et ce qui est en train de se faire dans le fond. Alors évidemment que nos amis artisans, évidemment que nos amis qui sont dans le commercial ne voient pas forcément ce midi-là à leur porte. On comprend tout à fait, mais voilà, une raison de plus pour cet ami auditeur qui est un commercial dans sa voiture, je ne sais pas s'il est au boulot entre deux clients, de rester avec nous jusqu'à 18h là-bas si j'y suis à GCS.
Le Brésilien vit dans un bidonville, le Roumain demande le droit d'asile, le petit Pakistanais fabrique des chaussures de sport. Le Polonais est au chômage, l'Afghan vit au Moyen-Âge, l'Algérien est pris en otage, le petit Thaïlandais se fait prendre par des gros forts. Comment tirer le maximum? Parti des gentils et parti de l'homme. Pour de l'argent, full cash to come on, yeah man. Full cash to come on, yeah man. Le footballeur vend des hamburgers,
le champion de Formule 1 des voitures du shampoing, la comédienne un menu minceur,
et partout des mannequins parce qu'elle avale le bien.
L'ayatollah vend de l'eau de glace,
l'homme politique paye son marché public, la mafia remplit son panier d'actions et d'avocats, les labos pharmaceutiques ne font pas de fric en Afrique. Comment tirer le maximum? Parti des gentils et parti de l'homme. Pour de l'argent, full cash to come.
come on, yeah, man, the fool's cash to come on, yeah, man, the fool's cash to come on, yeah, man, fool's cash to come on, yeah, man, fool's cash to come on, yeah, man, fool's cash.
Il avance, il arrive, l'accord général sur le commerce des services. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est la grande parano, c'est la grande frayeur. Il faut dire que la dernière fois, vous vous souvenez de l'ami, notre petit ami, qui est arrivé comme ça, personne n'était au courant. Personne n'était au courant. Nos élus, le gouvernement de l'époque, l'ami, mais quel ami? Ah bon, voilà. Alors, vous vous souvenez, on avait fait du tapage et on avait placé la lumière sur l'ami et tel le Dracula, eh bien, l'ami n'a pas supporté la lumière. Il s'est enfui tout piteux et il a été quoi donc? Remplacé, eh oui, remplacé par la GCS, l'accord général sur le commerce des services. Je rigole, mais il faut quand même essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et pour ça, on a notre Suzanne George. Suzanne George, elle est vice-présidente d'ATAC. Vous savez ce qu'est ATAC. Et c'est quelqu'un qui vraiment sait expliquer ce que c'est que la GCS.
La politique aujourd'hui est beaucoup plus compliquée qu'autrefois. Quand j'ai commencé, on disait US hors du Vietnam et tout le monde comprenait ce que ça voulait dire, n'est-ce pas? Maintenant, si vous dites il faut battre la GCS, les gens vous regardent peut-être avec un certain intérêt, mais ils ne comprennent pas d'emblée. Bon, alors d'abord, la sigle ne nous aide pas. En anglais, c'est mieux, c'est le GAT. Et ça fait comme l'argot pour le pistolet. Mais la GCS, c'est quelque chose effectivement d'assez compliqué, mais pas d'incompréhensible. Je voudrais mettre ça en exergue parce que c'est très facile à comprendre qu'on a mis toutes les activités humaines dans un cadre de privatisation universelle. Alors, toutes les activités humaines, sauf la religion, la défense nationale, la police et la magistrature. Mais toutes les autres professions sont couvertes, sauf celles qui sont couvertes par d'autres accords à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, comme l'agriculture ou l'industrie. Mais la banque, les assurances, les comptables, les instituteurs, les infirmières, les vendeurs dans des magasins, ceux qui travaillent pour l'EDF, la SNCF, tout le reste est couvert. Alors, ce qu'il ne faut pas dire, c'est tout va être privatisé demain matin. Ça, c'est pas vrai. Mais ce cadre est extrêmement contraignant et prévoit, parce que c'est pas un traité terminé une fois pour toutes, ça prévoit dans le texte une série de négociations qui doivent aller toujours, et je cite, dans le sens de la libéralisation progressive. Ça veut dire de la privatisation et l'État doit petit à petit tout lâcher. Ça peut durer un certain temps, mais c'est ce qui est prévu théoriquement jusqu'à ce que chaque service, éducation, santé, environnement, culture, énergie, transport, distribution, poste, télécom, tout soit totalement libéralisé dans tous les pays. Et c'est ça l'objectif.
Et c'est prévu par qui, tout ça?
C'est prévu par des gouvernements qui ont signé un texte qu'ils ont compris plus ou moins en 1994, qui a donné naissance à l'OMC le 1er janvier 1995. Et ils ont signé bien d'autres choses encore. L'accord sur l'OMC couvre 28 accords séparés, hein, et c'est un texte qui fait plus de 600 pages, avec des milliers de pages d'annexes. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nos députés ont eu ces textes un jeudi soir et ils ont voté un mardi matin. Autrement dit, personne n'avait lu la totalité. Peut-être avait-il lu certaines choses, mais dans tous les pays, c'était comme ça. Une anecdote aux États-Unis. une organisation avec laquelle nous travaillons, qui s'appelle Public Citizen, avec Laurie Wallach, c'est l'organisation fondée par Ralph Nader. Ils avaient proposé $10,000 pour l'œuvre charitable au choix de n'importe quel membre du Congrès qui pouvait jurer sur l'honneur qu'il avait lu les textes et qui pouvait répondre à 10 questions simples sur le contenu. Et au début, personne ne s'est présenté. Et puis, on a prolongé le délai avant le vote d'un mois. Et il y a un sénateur qui s'est présenté, qui a juré, qui a répondu aux questions, et puis qui a appelé une conférence de presse pour dire « Je suis républicain, j'ai voté pour absolument tous les accords de libre-échange depuis que je suis au Sénat. Celui-ci, je ne le voterai pas parce que j'ai lu les textes et je vois ce qu'il y a dedans et ce serait un désastre. » Et effectivement, c'est un désastre programmé, c'est virtuel. Encore une fois, c'est pas forcément demain matin que tout sera privatisé, mais beaucoup de choses sont déjà sur la table. Les négociations commencent, vont recevoir une grosse impulsion à Cancun au mois de septembre. Et l'espoir de la Commission européenne et des négociateurs américains en particulier, c'est que ce soit tout terminé pour le 1er janvier 2005.
École santé, hey, ils veulent privatiser. École santé, hey, tout ça on veut garder. École santé, hey, ils veulent privatiser. École santé, hey, tout ça on veut garder.
Résistance à ceux qui veulent abandonner le monde. Le monde répond, résistance,
il n'y a pas foule, c'est vrai, mais il y a résistance quand même, et on sait, l'histoire nous apprend qu'il faut parfois bien peu de monde pour infléchir le cours de l'histoire en question. Mais oui, je sais ce que vous pensez, on n'y peut rien. Soyons réalistes, soyons pragmatiques. Ah, le grand mot, c'est pragmatique, puisque c'est évident, c'est normal, il faut s'adapter, nous n'avons pas le choix, there is no alternative. Notre auditeur britannique aurait pu tout à l'heure citer la fameuse phrase de Margaret Thatcher qui marquait le triomphe de cette idéologie en disant « Il n'y a pas d'idéologie là-dedans, c'est évident, nous n'avons pas le choix, il n'y a pas d'autre chemin possible. » Or, vous les entendez, au moins cette poignée-là de contestataires et de pas contents considèrent qu'il y a peut-être d'autres façons de faire. Parce que si on en croit des gens comme Suzanne George, eh bien, bientôt, les services publics, la poste, c'est fait, l'éducation, l'hôpital, tout ça, ce sera privatisé. C'est une question assez grave pour que, quand même, des villes françaises se déclarent symboliquement zone non AGCS. Et c'est le cas d'une ville comme Paris. Et oui, Paris est une ville qui est non AGCS. Mais il y a des villages, il y a des petites villes en France qui se déclarent également non AGCS. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a plus de 430 élus français qui ont signé un appel demandant un moratoire des négociations sur l'AGCS, le fameux AGCS, signé donc en 1994 et qui est actuellement, c'est pour ça qu'on en cause, en renégociation. C'est une, il y a une campagne actuellement qui s'appelle Stop AGCS. On continue.
Vous nous parlez de décisions qui vont changer radicalement les données de l'économie globale, mais aussi la vie quotidienne des gens.
Absolument.
Mais est-ce que c'est des questions politiques? G8, FMI, Banque mondiale, OMC, est-ce que c'est de la politique ou est-ce que ça échappe aux politiques?
Non, c'est absolument de la politique parce que ce sont toutes décisions qui vont avoir un impact sur la vie des gens et en particulier sans débat et sans que les gens puissent être représentés. Parce que
c'est la politique sans les citoyens.
Exactement, et sans les représentants des citoyens, parce que nos parlementaires ont le droit, une fois que tout est bouclé, de dire oui ou non. Ça, c'est pas ce que j'appelle de la démocratie. Alors, le boulot des fonctionnaires, ils sont pas spécialement nombreux, beaucoup moins qu'à la Banque mondiale ou au FMI, c'est de préparer tout cela. Leur objectif, ce sont des fonctionnaires, mais leur objectif, c'est la libéralisation, parce que s'il n'y a pas libéralisation, ils ont plus de boulot, n'est-ce pas? Donc forcément, les briefings, les études, tout ce qu'ils préparent, c'est pour aller dans le sens de la libéralisation. Et le credo, et vraiment la religion de l'OMC, c'est que la libéralisation, c'est-à-dire la privatisation dans tous les domaines...
L'ouverture à la concurrence.
L'ouverture à la concurrence est une bonne chose dans tous les domaines et sans exception. Point barre. Et puis, il y a les lobbies qui sont extrêmement actifs et avec lesquels la Commission a une relation tout à fait intime. Nous avons même eu la correspondance entre quelques grandes compagnies d'eau où la Commission disait, dites-nous, les domaines et les pays en particulier où il y a des obstacles au commerce. Donc, ils les consultent. Bon, ils disent qu'ils consultent la société civile, mais ces consultations, ça consiste surtout à nous dire ce qui a déjà été décidé. Donc, il y a peu de gens qui y vont encore. Bref. Bon, alors, lobby, en ce qui concerne le Nord. Faiblesse du Sud, oui, parce que, comme disait un ambassadeur du Sud, l'OMC, c'est comme un cinéma multiplex. Il faut savoir quel film vous voulez voir parce que vous n'allez pas pouvoir les voir tous. Et il avait raison parce que à l'OMC, il y a 3 douzaines de pays qui n'ont pas d'ambassadeur.
L'OMC, c'est à Genève, en parenthèse.
C'est à Genève, ville extrêmement chère. Et il y a beaucoup de pays qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une mission permanente. Ils partagent un ambassadeur. Et puis, il y a les pays du quadrilatère, Canada, Japon, États-Unis, Union européenne, qui sont les vrais moteurs. Et on dit ouvertement que lorsque le Quad a décidé de quelque chose, ben c'est décidé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le consensus, et il est rarissime qu'un pays du Sud puisse défier la volonté du Quad. On dit de l'OMC, nous sommes une organisation démocratique parce que c'est un pays, un vote, contrairement à la Banque mondiale et au FMI où c'est $1 un vote. Ben, peut-être seulement, on ne vote jamais. Ah. L'unique fois où les pays du Sud, dans une grande dispute sur qui serait le directeur de l'OMC, et ils avaient leur candidat et ils ont demandé le vote. Et l'ambassadrice des États-Unis a dit qu'on ne pouvait pas avoir un vote parce que ça détruirait la belle tradition de démocratie à l'OMC où on ne travaille que par consensus.
Très bien, très bien, très clair, hein, Suzanne George. Très clair, mais concrètement, dans le bistrot du coin, tout ça, comment, dans la vie quotidienne, là, entre la poire et le fromage, entre les mômes qu'on amène à l'école, Alors, avec Give, nous voilà à Archigny. Archigny, c'est un petit patelin de 1005 habitants, 1005, très important les 5, qui est à 20 km au nord-est de Poitiers. Poitiers, c'est dans le Poitou, eh oui, le pays de... Voilà. Et là, on rencontre Dominique Leblanc, qui est instituteur depuis plus de 15 ans. Et son boulot, bah, c'est de remplacer les instituteurs qui sont pas là, malades, etc. Donc, il est itinérant, comme ça. Et c'est des endroits de cette France qui est hantée par la désertification. La fameuse désertification rurale qui n'en finit pas. On l'a vu dans la région PACA l'autre jour, dans le Mercantour. Ben, là, c'est un peu le même problème. Et Dominique Leblanc, il est à ATTAC, au groupe ATTAC de Poitiers. Il travaille sur la GCS et il est éducateur, il est instit et il essaye de faire comprendre à ses congénères poitevins comment ça marche la GCS.
Nous sommes à Archigny.
Vous êtes institutrice
en maternelle à Archigny et là nous sommes dans l'école primaire d'Archigny.
Archigny, c'est une commune rurale, beaucoup de fermes, donc activité agricole, et puis grande commune en superficie.
Ce qui fait qu'en effet, les enfants prennent le car. Donc l'école a un rôle quand même central dans la commune parce que c'est quand même un point où les gens se rencontrent. Hein. Devant l'école, à la sortie, à l'arrivée de l'école, c'est un point de rencontre.
Donc c'est un village tranquille.
Ah, très tranquille.
Une certaine douceur de vivre, oui, qui est de temps en temps un petit peu menacée par des événements au niveau de l'école. Les gens se sont regroupés plusieurs fois pour défendre leur école.
Moi, je suis assistante sociale scolaire et, par exemple, depuis le 27 mars, il y a l'école de Smart qui a été régulièrement occupée par les parents d'élèves. Il y a l'école La Canale à Châtellerault et ça n'a pas du tout été relayé, qui a été occupée 2 jours par les parents avec refus de faire entrer les enfants dans l'école.
Mais sur ce qui vient d'être dit, justement, service public en danger. Sylvie, l'assistante sociale, AGCS, qu'est-ce que ça vous dit?
Dominique et moi, je sais pas, on en a discuté souvent, mais
ce fameux machin là, l'accord général sur le commerce des services, on est dedans
sans là, en ce moment là dans la classe de l'école,
on n'est pas loin parce que dans la GCS le mot service public n'existe pas, il n'est jamais écrit, ce qui est déjà un signe. C'est un accord qui engage l'ensemble des pays membres de l'OMC, 145 pays, c'est pas rien. Le mot service public dans la GCS, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on lui fait un sort en disant qu'il n'existe pas. Alors pas directement, c'est aussi le propre de ce genre de texte, c'est de dire des choses en prenant des précautions de langage bien sûr et en disant que bon, c'est plutôt au départ les formations qui seraient dispensées par internet. C'est les formations à distance, c'est la vidéoconférence et mais bon, on est dedans.
Mais à qui profite la GCS? Aux citoyens ou aux entreprises?
La libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui dominent le marché mondial.
Si on privatise tout, la santé, c'est un marché de 3 trilliards d'euros par an.
Trilliards,
3 plus 12, 0. Incompréhensible. L'éducation, c'est à peine moins. Ce sont des spécialistes qui estiment ces chiffres. 2 trilliards et demi.
Ça, c'est
si on privatise tout.
Ça, c'est les chiffres du marché que ça pourrait représenter si ça échappait aux États.
Exactement. Si vous privatisez toute la santé, vous avez des profits colossaux en perspective. Et c'est si vrai que naturellement la coalition des industries de services américains qui publie des rapports tous les 6 mois qu'ils envoient à leurs négociateurs.
Qui est un lobby donc.
Qui est un lobby, exactement. Nous en avons de similaires. Alors ils disent carrément les systèmes de santé nationaux dans les pays européens sont pour nous un obstacle. Nous souhaitons à terme pénétrer ces marchés-là et nous vous prions de commencer par le marché, parce que c'est un marché, des plus de 65 ans, parce que ces gens-là consomment beaucoup plus de services médicaux que le reste de la population. Alors vous commencez par là, n'est-ce pas ? On va commencer. Et déjà, on reclassifie. C'est-à-dire qu'on dit, eh bien, la restauration dans les hôpitaux, ça n'est pas la santé, c'est la restauration. Peut-être que le linge des hôpitaux, c'est pas la santé, c'est la blanchisserie, c'est un service qu'on va mettre ailleurs, parce que comme ça, on va pouvoir le libéraliser sans le dire. La cantine scolaire, ben ça aussi, c'est la restauration. Le transport scolaire, ben ça, c'est du transport, c'est pas le système de l'éducation nationale, le bus qui cherche les enfants. On peut, par des tas de billets comme ça, extrêmement retors, libéraliser sans en avoir l'air, et c'est absolument la pente de la commission, et c'est contre cela que nous nous battons. Nous pensons qu'il faut carrément enlever de cet accord AGCS, accord général sur le commerce des services, il ne faut pas que l'éducation, la santé, l'environnement, les aspects du transport qui sont du service public, l'énergie quand c'est un service public, nous pensons que tout ça doit rester dans le domaine public et qu'on cesse de faire pression là-dessus pour libéraliser.
Oui, salut, c'est Grégory de Montpellier. Je voudrais vous lire l'appel signé par la coordination des établissements du second degré de Montpellier, qui a été voté à l'unanimité le 15 mai à Montpellier. Voilà, sous couvert de décentralisation, le gouvernement Raffarin procède au démantèlement de l'éducation nationale pour permettre la marchandisation et la privatisation du service public d'éducation. Le dynamitage de l'éducation nationale auquel nous assistons n'est qu'un préalable à l'ouverture des services publics aux investissements privés qui se concrétisera par la signature fin 2005 de l'accord général sur le commerce des services. En effet, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne négocie depuis 1994 et à l'écart de tout débat démocratique, le cadre juridique d'une libéralisation totale du commerce des services à l'échelle mondiale. La GCS signée, plus aucun service public ou d'intérêt collectif ne pourra échapper à la libéralisation, c'est-à-dire à la mise en concurrence avec le privé à l'échelle internationale. Nous, personnel d'éducation, citoyens, citoyennes en lutte, réunis au sein de la coordination des établissements du second degré de Montpellier, affirmons que la politique éducative ne peut pas être soumise à la logique marchande de l'OMC et exigeons le retrait immédiat de notre gouvernement des négociations de la GCS pour que l'éducation reste nationale, publique, laïque et gratuite. Voilà, bon courage.
Voilà, une affaire de valeur. Oui, 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 tout à fait, de valeur. Une affaire de civilisation, une affaire de société, mais une affaire de choix. Et la question, c'est qu'on nous a fait croire qu'il n'y avait pas de question. Ça, c'est un très grand succès d'une propagande qui a accompagné une idéologie et qui nous a fait croire que nous n'y avait pas de choix. Or, il y avait choix, et il y a choix, évidemment. Tout dépend de ce que nous voulons. Et oui, nous sommes encore, j'espère pour longtemps, et depuis pas mal de temps déjà dans une république, avec une culture, avec un certain nombre de valeurs. Et c'est ça dont il est question, c'est pas une affaire technique, de machin, d'années, de quotas, de 2%, de 3%, de... Non, c'est une affaire où il faut très très vite aller au fond pour comprendre, au lieu de rester à la surface, au lieu de se laisser avoir par les codes, par le langage, par les sigles, par la complexité technocratique, volontairement complexe et volontairement technocratique, il faut pas hésiter, même, bon, bah tant pis, quitte à avoir un peu, oui, et aller sur le fond, aller sur, et ben là, voilà le fond. Le fond, c'est la France profonde, et nous y revoilà, dans ce petit village du Poitou. Et oui, du Poitou à Archigny, où on essaye de comprendre, comme nous le faisons tous en ce moment, ce qu'est cette AGCS.
Et l'institutrice alors, AGCS.
Alors moi je découvre ça complètement depuis deux jours, depuis que notre collègue Dominique est dans l'école, donc c'est vrai que je crois qu'il...
Ah oui, mais c'est un fauteur de troubles.
Oui, non mais je crois qu'il ouvre l'esprit et c'est vrai qu'il nous informe de choses auxquelles on n'est pas forcément informé par la presse ou par les médias ou... parce qu'on cherche pas ou parce que peut-être on est sous-informé, effectivement.
Ça vous disait quoi avant, alors?
Ça me disait rien, non, ça, rien du tout. C'est nouveau pour moi, ça. Non, je découvre complètement. C'est vrai que là, on était parti dans nos revendications enseignantes et puis, on découvre, en fait, d'autres choses qui se trament derrière tout ça. Moi, c'est vrai qu'à écouter, je trouve ça plutôt inquiétant, c'est vrai. Je me dis, quel va être l'avenir de nos enfants? Ça me semble ça, l'inquiétude que j'ai, moi.
Oui, je crois que ça fait partie de choix politiques et qui ont des conséquences. C'est pas que des mots, ça se traduit par des réalités. Alors, on va pas le lier à tout prix avec notre fameuse AGCS, l'accord général sur le commerce des services. Mais en même temps, on met sur le marché un certain nombre de secteurs et l'éducation en est un. Pas tout de suite, pas l'année prochaine, pas dans deux ans, mais 2008-2010, on grignote. Et on sent ça en ce moment. On sent cette espèce de grignotage qui produit du dysfonctionnement sur lesquels on s'appuie pour dire bah vous voyez ça marche pas, peut-être que si on faisait des écoles Bouygues ou des écoles Shell comme en Angleterre, peut-être que ça marcherait mieux parce qu'il y aurait du management derrière, parce qu'il y aurait le souci de d'optimiser les moyens, d'optimiser les budgets. Mais je crois que ce texte là il va vraiment falloir l'étudier de très très près, parce qu'il fait, il participe aussi de toutes ces questions qui nous préoccupent et de tout ce qui se passe autour de l'école en ce moment. Alors bon, Archigny est un peu loin de tout ça, a priori, comme ça. Là, de son bureau de poste encore, son clocher, son école. L'après-midi est moins belle que celle d'hier, mais on est là-dedans. D'autant plus que je pense que c'est la majorité de la population, même si elle a du mal à vraiment à le mesurer, qui subit des choix politiques. Pour l'école, pour la poste, parce que pas rentable.
Laurence, oui. Est-ce que vous avez ce même sentiment de service public menacé?
Bon, je peux en parler aujourd'hui au niveau de la poste. Si la poste d'Archigny disparaît, comment vont faire les personnes âgées pour aller mettre leur timbre et envoyer leurs lettres? Ils pourront pas aller jusqu'à Poitiers ou Châtellerault, ça c'est évident. Donc je pense qu'effectivement, dans ces communes très très isolées, ça risque de poser des problèmes graves.
On est à Archigny, mais on pourrait être dans beaucoup d'autres endroits en France où les mêmes problèmes se posent, les mêmes inquiétudes se donnent à entendre, la même difficulté à comprendre ce qui se passe, parce que c'est des situations nouvelles. La mondialisation, c'est ça, c'est comprendre ces grands systèmes mondiaux qui ont une incidence dans nos vies quotidiennes et qui sont en train de bouleverser profondément nos façons de vivre. On l'avait vu avec l'affaire du McDonald's, avec l'affaire de la malbouffe. On a compris, là, il y a eu un lien entre cette mondialisation libérale et notre assiette. Alors là, on a compris. Ça, nous autres, les franchouillards, on a pigé ça. Eh ben, ce sera la même chose pour l'éducation, pour la santé, pour l'ensemble des services publics. La vie est en train de devenir une marchandise.
Baiser le sec. Allez, vas-y. Ouais. Mesdames, monsieur.
Je sais pas, moi, écoute, moi, j'ai deux baguettes, deux cafés.
Je sais que c'est un petit village.
C'est le village où, que tout le monde traverse et où on s'arrête pas beaucoup.
En principe, oui, c'est ça. Ouais. Enfin, les gens s'arrêtent pour le café, simplement.
Qui s'appelle comment, d'ailleurs, le bar tabac?
Le petit pot de vin chez Colline. C'est mon épouse.
Combien d'habitants ici à Pézelsec, vous disiez?
372 habitants.
Ça, c'est le maire de la Grand-Rue.
Maire de la Grand-Rue.
Bonjour, moi, c'est...
Éduquement que de la Grand-Rue.
Maire de la Grand-Rue. Effectivement.
Mais enfin, c'est chez nous, c'est bien ennuyeux quand même. On n'a plus beaucoup de commerce, quoi. Perdu l'épicerie, perdu la boulangerie.
Et la poste.
Et la poste, et bien sûr, et la poste, oui. Et la poste.
Il était où le bureau de poste, là? Il était de...
un peu plus loin, là. Un peu plus loin.
Et bien, j'imagine que c'était déjà une petite agence.
Oui, c'était une petite agence, mais enfin, qui rendait bien service quand même, quoi. Oui, c'était un service public quand même, quoi. Alors, je sais pas, c'est pas l'avenir des communes si on supprime tout, hein.
Mais pourquoi on supprime? Qu'est-ce qui vous a été dit, vous?
Je sais pas, que la poste n'était pas rentable.
Pas rentable?
Ton magasin, okay. Si c'est pas rentable, tu fermes.
Ah bah exactement.
Bon. Oui, mais enfin, bah, ton magasin, c'est pas un service public.
C'est pas un service public.
Voilà. Le public, il est rendu comme le privé. Hein. Ouais. Au niveau finance, c'est pareil. Hein. Pas rentable, il ferme. Hein.
Ah oui, oui. Et de plus en plus.
Mais un service public, est-ce qu'il a vraiment besoin d'être rentable? Hein? On se le demande quand même. Hein. On s'est tous basé là-dessus, mais je pense pas. Hein.
Et alors oui, patron?
Oui.
Montrez-moi, faites-moi visiter votre bureau de poste.
Alors, ça se trouve ici.
Ici, c'est tout ce qui est bar. Mm-hmm. Et ici, c'est le coin tabac et poste. Tout se trouve devant ma caisse.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en poste?
En poste, eh bien, vous voyez que tout à l'heure, je viens de vendre des timbres. Ouais. Là, j'en ai vendu 3 catégories. Parce que pour l'instant, on n'a pas la balance. Et ça nous handicape pour peser justement les colis. Alors là, on le fait à peu près à vue d'œil.
À vue d'œil, vous mettez. Maintenant, c'est vous qui faites le service public, quoi, en fait.
Ben oui, maintenant, c'est nous qui nous occupons de tout ça. D'ailleurs, justement, une boîte aux lettres qui va être mise sur mon mur prochainement, dans les jours qui vont arriver, qui est prévue avec la poste, et que les gens mettront leur courrier dedans. Tout sera se trouvera ici.
Ouais. Est-ce que vous connaissez l'OMC?
CNCS, on sait ce que c'est, mais OMC, on a du mal. Hein.
Et AGCS, ça vous dit quelque chose?
Ils nous posent des cols, là. Parce que je crois que l'histoire de la poste, ça marche un peu avec ces deux trucs-là. Là. OMC, AGCS.
Et là, on a notre Dominique, qui est notre joker. Dominique, qui a un stit.
C'est
et
un
puis
poids
qui...
de vin, Dominique?
Ouais. Enchanté. Ouais, donc l'OMC, ouais, c'est... L'OMC, ça veut dire Organisation Mondiale du Commerce. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est bien loin de peser le sec, mais pourtant on est dedans, quoi. On est vraiment dedans. Si le bureau de poste y ferme ici, c'est parce que effectivement on considère qu'il est pas rentable, parce que
pour s'en sortir, la Poste est obligée d'avoir des critères de rentabilité de plus en plus élevés. Donc, avec la concurrence sur les paquets postaux, la Poste aura encore le monopole sur les lettres de 20 grammes, et tout ce qui sera au-dessus, n'importe qui pourra distribuer, quoi. Sachant que peser le sec, ça n'intéresse pas un gros opérateur de courrier, hein. Pas intéressant.
Bien sûr. Ça, je comprends bien.
Alors, ce qu'on risque de faire, par contre, c'est de dire que si ça rapporte de l'argent, on va confier à des sociétés privées qui vont aller sur le marché. Et puis, si ça rapporte pas d'argent, c'est le contribuable qui va payer sur le principe que les bureaux sont pas rentables, alors que, effectivement, l'idée de départ, c'est le service public.
Quatre nouveaux cas de vaches folles en France. Deux de ces cas ont été détectés dans le département.
Ce soir, on en sait un peu plus sur les conditions mêmes du naufrage. Le navire a d'abord été du nez vers l'avant.
Pourtant, reconnaît qu'ils ont tous été exposés à de l'uranium appauvri durant leur mission.
Jean-Pierre, alors on prépare la paix et vous nous annoncez une bêche à la bourse.
La visite de Vladimir Poutine en France. Le président russe a rencontré aujourd'hui une délégation de patrons.
Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. La vache qui vit nous fait la gueule, sa mère l'avait pas préparée. A bouffé au petit déjeuner, sa petite sœur en granulé. On perd le sud, on perd le nord, ça y est la vache est carnivore. Le fric est la loi du plus fort, ça tue, ça pue, ça sent la mort. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là, ça va sonner à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Et qui a laissé aller, c'est qui va tout nettoyer. C'est qui a les mains pleines d'embrouilles, quand c'est j'aime c'est Bibi. Total Fina repeint les lignes, il est vacances sur l'Atlantique. Mais si tu veux plus authentique, y'a des promos pour Tchernobyl. Pendant ce temps-là, ça passe à Washington. Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne. Pendant ce temps-là,
à Washington, les manifestants anti-mondialisation ont réussi, malgré les forces de sécurité, à empêcher l'accès au siège du FMI et de la Banque mondiale. Sur le carreau pour l'instant, trois ministres.
Vous savez que ce sont les grands syndicats américains qui ont organisé cette marche pour dire non à la fois aux OGM, aux bœufs aux hormones, mais aussi oui au partage des richesses et aux droits des travailleurs. Il y a énormément de monde, la police est partout et les hélicoptères survolent.
Nous allons battre les forces nationales pour aller ensemble. Qu'est-ce que nous voulons sur une vie citoyenne, sur une vie égalité des droits, sera une réalité. Pour le Nord et le Sud, parce qu'on a le cœur. On peut la tous, au cœur à cœur, mouillissant, puissant, pour les précaires, contre le dictature transnational, contre l'argent roi.
Pendant ce temps-là, y'en a qui veulent changer la donne.
Voilà, c'est l'esprit de mai, et on y retourne demain à la GCS, et on retournera dans le Poitou. Merci à tous, merci à Suzanne Georges, Dominique Leblanc, Antoine Thomas, Chantal Marono, Angélique Guichard, Laurent Soulas, à l'école d'Archigny, qui est à côté de Poitiers, je le rappelle, à Madame Morissette et à son époux, à Monsieur Popineau, et aux habitués du Petit Poitou de Vin, le bistrot de Pézet-le-Sec, des bouquins, remettre l'OMC à sa place, un petit livre de Suzanne Georges, chez Mille et Une Nuits, c'était un reportage de Guy Vanctil, technique aujourd'hui Michel Thomas et Ronan Mahé, assistante Joël Levert, Christophe Imbert, c'est le répondeur, c'est le chef du répondeur, 01 56 40 37 37, assistant musique Coy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission. Modeste et génial.